Il est 16h à Paris, 14h en temps universel. Vous écoutez bien RFI, 17h à Bucarest.
Diane Berger.
Deux noms sur les bulletins de vote et un pays qui choisit son destin en Roumanie. C'est le deuxième tour de la présidentielle ce dimanche. Dans les derniers sondages, les deux candidats sont au coude à coude. Le libéral Nicu Jordan a rattrapé son retard sur le tribun d'extrême droite George Simion. On ira à la sortie d'un bureau de vote de Bucarest dans quelques instants. Volodymyr Zelensky a revu le vice-président américain cet après-midi à Rome. Une rencontre après des négociations infructueuses vendredi entre Kiev et Moscou. Et surtout, après une nouvelle salve d'attaques russes la nuit dernière, nous ferons le point sur la situation. Le Canada est-il encore en guerre commerciale contre les États-Unis ? Le gouvernement canadien semble avoir mis de l'eau dans son vin depuis quelques semaines. Et puis au Festival de Cannes, deux superstars à l'affiche du film Die My Love. Jennifer Lawrence donne la réplique à Robert Pattinson dans un récit qui laisse la croisette quelque peu dubitative. Mais d'abord, nous l'avons appris il y a quelques minutes, l'armée israélienne annonce le début de sa vaste opération terrestre à Gaza, dans le nord et dans le sud de l'enclave. La menace était brandie depuis plusieurs jours. Le pays a insisté ces derniers jours sur son intention d'intensifier l'offensive contre le Hamas. Et de fait, les bombardements sont très meurtriers depuis plusieurs jours à Gaza. Selon la défense civile de l'enclave palestinienne, rien que ce dimanche, les frappes israéliennes ont tué au moins 50 personnes depuis les premières heures du jour. Dans le même temps, Benjamin Netanyahou s'est dit ouvert ce dimanche à un accord incluant la fin des combats à Gaza, un début d'inflexion du discours du Premier ministre israélien dans le cadre des négociations qui ont repris hier à Doha. Les regards de l'Europe sont eux braqués vers la Roumanie. C'est aujourd'hui le second tour de la présidentielle dans le pays. Un duel entre le maire de Bucarest, libéral pro-européen Nicu Jordan, et le candidat d'extrême droite George Simion, ultra-conservateur, pro-Trump, très critique de Bruxelles. Il était arrivé largement en tête du premier tour. Un point va sans aucun doute être déterminant. C'est la question de la mobilisation. Au premier tour, près de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter. À midi, ce dimanche, la participation était de 33%. Reportage à Bucarest de Muriel Paradon.
À la sortie de ce bureau de vote de Bucarest, beaucoup d'électeurs disent avoir choisi Nicu Jordan, l'actuel maire de la ville, pour devenir leur futur président. Daniela a 58 ans.
C'est un homme capable et intelligent. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour Bucarest et on espère qu'il fera de même pour la Roumanie.
Pour Octavian, un étudiant de 22 ans, voter pour Nicu Jordan, c'est surtout rester ancré à l'Union européenne. Son adversaire, l'ultranationaliste George Simion, représente un danger. Selon lui.
Je pense qu'il y a un danger imminent d'arriver du fascisme et de l'extrémisme. Et si on est isolé, on n'aura aucune chance à l'avenir. On a besoin, par exemple, dans un contexte de la guerre, d'investir dans notre armée pour pouvoir se défendre et continuer à aider l'Ukraine, car cela veut dire assurer notre propre sécurité.
Decebal, 55 ans, lui, a voté pour George Simion. Il veut du changement et espère une amélioration du niveau de vie des Roumains.
L'inflation est importante et les salaires sont bas. Comme les salaires sont bas, on est obligé d'avoir plusieurs boulots. Je pense qu'il y aura un changement. Simion a promis un changement dans ce sens. Maintenant, on attend de voir.
Les premiers résultats de cette élection présidentielle en Roumanie sont attendus dans la soirée. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
Deux autres élections à noter en Europe ce dimanche. Le premier tour de la présidentielle en Pologne. La coalition qui gère le gouvernement espère récupérer le poste de président, toujours aux mains des conservateurs du PiS. Et puis ce sont aussi les législatives au Portugal. La droite au pouvoir est donnée favorite. Pour approfondir tous ces dossiers, n'hésitez pas à aller consulter notre site. Vous y retrouverez tous nos reportages et nos décryptages. www.rfi.fr. J.D. Vance et Volodymyr Zelensky se sont vus pendant environ une demi-heure aujourd'hui. C'est leur premier entretien depuis leur altercation à la Maison Blanche fin février. Une réunion qui a donc eu lieu aujourd'hui à Rome ce dimanche, là où le vice-président américain et le dirigeant ukrainien étaient à l'occasion de la messe inaugurale du nouveau pape Léon XIV. Leur réunion a aussi eu lieu deux jours après des négociations infructueuses à Istanbul. C'était les premiers pourparlers directs entre Kiev et Moscou qui n'ont donc pas été concluants. Le Kremlin refuse pour l'instant le cessez-le-feu exigé par les Occidentaux. Et l'armée russe a d'ailleurs lancé une nouvelle attaque de drones la nuit dernière. Une femme est morte au sud de Kiev. Mathias Troud, les autorités ukrainiennes parlent d'une attaque record.
273 drones russes lancés sur plusieurs régions ukrainiennes, du jamais vu depuis le début de la guerre. L'armée ukrainienne affirme en avoir intercepté 88, tandis que les 128 drones leurs n'ont pas atteint leur cible. Mais les drones de combat qui ont trompé les défenses ukrainiennes n'ont pas épargné les civils, des immeubles d'habitation, des maisons où des entreprises ont été éventrées, et vous l'avez dit, une femme a été tuée dans le district d'Obukhiv, au sud de Kiev. Le président américain Donald Trump a pourtant annoncé hier soir un appel avec son homologue russe, il doit se tenir demain. Celui qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures tentera de peser auprès de Vladimir Poutine pour, je cite, « mettre fin au bain de sang ». Mais les négociations bilatérales à Istanbul vendredi ont déjà fait valoir des positions inconciliable. La réunion a duré moins de 2 heures et la trêve voulue par Kiev a été balayée par une Russie arc-boutée sur l'annexion des territoires ukrainiens. Des objectifs sur lesquels Vladimir Poutine a encore insisté ce matin sur la télévision d'État.
Mathias Troud, et puis on évoquait le passage de Volodymyr Zelensky à Rome. Il a également été reçu par le pape Léon XIV aujourd'hui en audience privée. Le pape Léon XIV qui a qualifié l'Ukraine, je cite, de « pays martyrisé ». Vous écoutez Radio France Internationale, il est 10h06 à Ottawa et un débat agite l'opinion publique au Canada, l'état de la guerre commerciale avec Washington. Le nouveau Premier ministre Mark Carney a été élu, on le rappelle, sur une ligne dure face à Donald Trump, mais une étude d'un cabinet privé publiée cette semaine laisse entendre qu'en vérité le gouvernement canadien a été discrètement revenu sur les mesures de représailles prises après l'imposition des nouveaux droits de douane du président américain. Le ministre canadien des Finances a réfuté l'accusation. On démêle le vrai du faux de cette situation avec Nathanaël Vitran.
Il faut dire que les décisions brutales et les revirements soudains de Donald Trump ne rendent pas la situation toujours très lisible. Alors, reprenons. En février, le président américain annonce une taxe de 25% sur toutes les importations venues du Mexique et du Canada, avant quelques semaines plus tard d'exempter les produits couverts par un accord de libre-échange qu'il avait lui-même négocié avec ces deux pays lors de son premier mandat. Cette surtaxe ne s'applique donc que sur un nombre limité de produits, mais elle touche tout de même durement, notamment le secteur automobile canadien. Initialement, Ottawa avait promis de répondre avec des mesures de représailles dollar pour dollar. Mais là aussi, rapidement, des exemptions sont accordées pour les produits américains indispensables à certaines industries au Canada, à tel point que le cabinet Oxford Economics estimait en début de semaine qu'il ne restait quasiment rien des mesures de représailles annoncées en mars. Sur X, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, dément fermement, assurant que 70% des surtaxes annoncées sont toujours en place. Le flou, en tout cas, s'exporte lui visiblement toujours très bien.
En bref, dans l'actualité française, les votes s'arrêtent dans 2 heures au sein du parti Les Républicains. Les 120 000 adhérents du mouvement votent en effet pour désigner le président de l'organisation. Ils ont le choix entre Laurent Wauquiez, le chef des députés LR à l'Assemblée, et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. 6e jour du Festival de Cannes dans le sud de la France. 22 films sont en compétition pour la Palme d'Or, l'un des plus prestigieux prix du 7e art. Et parmi ceux en compétition, Die My Love de la britannique Lynn Ramsay, l'adaptation d'un roman argentin sur la dépression postpartum avec 2 mégastars au casting, Isabelle Chenu.
Jennifer Lawrence se donne sans compter dans le rôle d'une jeune mère qui sombre dans la folie sous les yeux désemparés de son conjoint incarné par une autre superstar, le britannique Robert Pattinson. Révélée à 20 ans dans les sagas Hunger Games ou X-Men, l'actrice américaine aime aussi faire des incursions dans le cinéma d'auteur.
Elle est poursuivie par l'idée qu'elle va disparaître. Moi, j'étais enceinte de 4 mois et demi quand on a tourné, donc point de vue hormones, ça allait plutôt bien, je me sentais joyeuse, et c'était la seule façon de me plonger, de m'immerger dans ces émotions.
Habituée de la croisette, la réalisatrice écossaise Lynn Ramsay est de retour pour la 8e fois au festival. Elle y a laissé des souvenirs marquants et reçu notamment le prix du scénario en 2017. Dans Die My Love, elle met en scène un couple confronté aux troubles mentaux de la jeune mère. Le film s'inscrit dans une mouvance récente du cinéma qui désacralise la maternité. Jennifer Lawrence livre une prestation intense mais qui frôle parfois le burlesque.
Isabelle Chenu, notre envoyée spéciale à Cannes. Il est maintenant 14h 7h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI.